BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Bruxelles a récemment mis sur la table un projet de réforme du très sensible droit d'auteur. L'objectif, c'est d'adapter le droit d'auteur à l'ère du numérique. Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre.
Bonjour.
De Context. Vous êtes un des spécialistes de la question ici à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il faut adapter le droit d'auteur ?
En gros, l'idée, c'est comment arriver à mieux répartir l'argent généré par le droit d'auteur sur Internet. Comment on répartit le gâteau généré par Google, YouTube et toutes ces choses-là.
Et ceux qui demandent ça, évidemment, ce sont les ayants droit. Les plateformes comme YouTube pourraient être obligées de signer des accords avec les ayants droit. Et parmi les ayants droit, Nicolas Galibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des éditions Sony ATV EMI. À vous seul, vous représentez environ 3 millions de titres en langue anglaise et française. Qu'est-ce qui pose problème pour vous aujourd'hui ?
La juste rémunération des créateurs, un rééquilibrage dans le paysage numérique aujourd'hui par rapport à la contribution qu'ils ont à la création, une plus juste rémunération et un partage de la valeur plus équitable.
Bonjour Constance Le Gris, eurodéputé Les Républicains, donc de la famille PPE, Parti Populaire Européen, ici au Parlement. Vous suivez de très près ces questions-là. Vous êtes de quel côté ? Vous êtes du côté des plateformes ou du côté des ayants droit ?
Du côté de la création, du côté de la culture, voilà. Le droit d'auteur, c'est la pierre angulaire de la création, de la culture. Sans droit d'auteur, il n'y a pas, comme ça a été dit, de juste rémunération du travail des créateurs, des artistes. Il n'y a pas de diversité culturelle. Je suis très attachée également à la diversité culturelle en Europe.
Également avec nous sur le plateau, Jean Quatremer de Libération. Je lui pose pas de questions, il connaît rien au sujet, mais c'est un pilier de l'émission, donc il est avec nous.
J'adore.
Le paquet copyright, demandez le programme de 500 millions d'Européens. La question, Nicolas Galibert, on a le sentiment aujourd'hui que les géants du numérique sont des passagers clandestins. En tout cas, quand on vous écoute, c'est ce qu'on ressent. Parce que YouTube, il diffuse des contenus créés par des artistes et la plupart du temps, ils ne payent rien. YouTube se vit, la plateforme, comme un simple intermédiaire technique. C'est ça le problème ?
C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire qu'on part d'un constat qui est que depuis les années 2012, il y a une vraie déflagration du numérique avec le bon côté qui est une explosion de la consommation de la musique, avec un accès dans l'espace et dans le temps qui est immédiate. Donc ça, c'est assez réjouissant. Ce qui est moins, c'est le mauvais partage de valeur qu'il y a eu et les pertes de job, une réduction des chiffres d'affaires en 12 ans qui était pratiquement de 60%. Dans ça, je fais partie du club des survivants et j'en suis très content, mais j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui, dans l'industrie, ont perdu leur job. Donc, c'est d'abord partir d'un constat de sinistre, hein, de la situation de la création musicale. Alors, constat, solution. Il y en a bien entendu, c'est pour ça que nous sommes là. C'est qu'il y a une incitation par les autorités européennes et nationales de rendre accessible le plus rapidement possible les œuvres et de licencier, de faire du licensing, comme on dit, ce qu'on fait constamment, chaque jour. Mais il y a un contexte qui nous est défavorable et qui date d'une directive qui était à l'époque où les GAFA n'existaient pas. Hein, et à une époque.
Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook,
et Apple.
Et puis on oublie aussi Microsoft dans l'histoire, c'est plutôt GAFAM. Maintenant.
Exactement. Donc voilà. À l'époque, il y avait des acteurs comme Napster ou même plus récemment MySpace qui n'existent plus. Mm-hmm. Donc il y a un contexte juridique qui nous est défavorable et qui fait qu'il y a cette fameuse clause de safe harbor, enfin, on parlait en français, de déresponsabilisation des plateformes et des intermédiaires qui font que on a envie et on déploie, et les créateurs sont là plus que jamais dans tous les répertoires et surtout en Europe avec une diversité linguistique extraordinaire, mais il n'y a pas de rétribution parce qu'il n'y a pas de responsabilité, donc pas de négociation équilibrée.
Il faut comparer la situation, en fait, moi je compare la situation en matière de droit d'auteur, je dirais à l'Iran de Mossadegh avant du temps où
c'est original.
Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons le pétrole, c'est-à-dire la création, et nous n'avons pas les moyens d'exploitation, et nous n'avons pas les pipelines. Mmh. Et tout ça a été fourni par les Américains. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que nous, on ne contrôle pas les plateformes numériques, qui sont américaines, toute la technologie est américaine, rien n'est européen.
C'est Spotify pour la musique. C'est, si je ne trompe pas, c'est suédois ou
suédois.
Oui, oui, donc c'est européen. Ça pose le même problème. Les ayants droit disent on n'est pas assez rémunéré par rapport à ce que le nombre de vues, le nombre d'écoutes qu'on fait, etc. Donc c'est pas uniquement une question est-ce que c'est les Américains ou les Européens. C'est une question
d'économie, de la culture, de la création qu'il faut revoir.
C'est danois. Ils sont partis aux États-Unis parce qu'ils avaient des problèmes de droit en Europe, donc ils sont allés monter leur business à New York. un des problèmes.
C'est l'oreillette qui vous dit
c'est,
ça
c'est un des problèmes. Non, Jean Quatremer, que j'ai titillé au début de l'émission en disant qu'il connaissait rien, du coup, monsieur définit les GAFA, et puis ensuite intervient sans qu'on lui pose deux questions, il est terrible.
On voit bien que c'est toute une économie de la culture et de la création qu'il faut retravailler.
C'est ça, consensuel. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de cadre. Si, il y a un cadre.
Si, il y a un cadre, oui, effectivement, il y a un cadre, mais qui est en partie obsolète ou à générer des déséquilibres, des dysfonctionnements, de l'iniquité et du non-partage de la valeur créée.
Je parle peut-être à Nicolas Galibert. Est-ce qu'on a un cas concret? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Si vous prenez l'exemple d'un artiste, est-ce qu'il y en a un qui se sent lésé sur une plateforme en particulier?
Alors, on parlait de pipeline. La différence, effectivement, c'est que les contenus qui circulent ne sont pas bien rémunérés et qu'aujourd'hui, par rapport à il y a une quinzaine d'années où un artiste pouvait vivre de la vente, de la commercialisation des supports, et même au début avec le téléchargement.
De combien un artiste a besoin chaque mois pour vivre?
Je vous taquine.
Non mais si on prend un cas concret aujourd'hui, quel est le manque à gagner pour un artiste?
Le manque à gagner, si vous voulez, par exemple aujourd'hui sur le stream, puisque c'est le modèle dominant, le téléchargement dégringole, c'est que, et on va parler surtout Spotify, est plutôt le bon élève. Si on parle de YouTube, sur YouTube, sur un stream non payant, c'est 18 fois moins de paiement qu'un stream payant. Donc le stream gratuit est 18 fois moins rémunérateur pour l'ayant droit que le stream sur abonnement. Donc ça vous donne le déséquilibre.
Je crois qu'il y avait un chiffre qui a fait circuler, c'était, je crois, pour gagner l'équivalent sur YouTube d'un SMIG, il faut atteindre genre 10 millions de vues ou quelque chose dans le genre. C'est un artiste français qui avait expliqué ça, parce que c'est tellement peu rémunéré que...
Je ne pense même pas que 10 millions permettent de gagner le SMIG.
Oui, c'est ça, mais je me souviens plus du chiffre.
Non, mais il y a effectivement des chiffres qui symbolisent.
Donc, Jean-Sébastien Lefebvre, l'idée, c'est que les plateformes de contenu, donc comme YouTube, nous, des accords, signent des contrats avec tous les ayants droit.
Ce serait pas chaque ayant droit, parce qu'il faudrait que ça soit chaque artiste individuellement, ça risque de faire quand même beaucoup. Ouais. Mais bon, il y a les intermédiaires. En France, ça peut être la SACEM, ça peut être aussi les maisons de disques, etc. Mais après, plus généralement aussi, c'est aussi... Le numérique pose une autre question à l'industrie, c'est l'âge d'or du disque où on achetait son CD ou son disque était très rémunérateur parce que effectivement c'était un secteur très contrôlé, il y avait une sorte de monopole de la distribution. Et aujourd'hui finalement, est-ce que c'est encore par l'écoute que la rémunération doit venir ou est-ce que c'est par les concerts, les produits dérivés, etc. C'est tout ça qui est remis en cause. Donc effectivement le chiffre d'affaires des grosses structures a baissé, mais c'est aussi parce que voilà, est-ce que aussi le modèle économique de la façon dont se vivent les artistes est encore le bon? C'est ça aussi. Et le rôle des intermédiaires. Effectivement, est-ce que Sony ou d'autres sont encore, on va dire, le niveau adéquat pour gagner de l'argent? C'est un peu la question. C'est ça où vous êtes challengé dans le développement
de YouTube. On est plus à l'ère du disque d'or. Maintenant, on est à l'ère de la clé USB d'or, en gros. C'est ça.
Non, même encore plus dématérialisé, encore plus virtualisé.
Dans le jargon bruxellois, on parle du value gap.
C'est la chaîne de valeur.
Transfert de valeur ou partage de la valeur. Pourquoi parle-t-on de partage de la valeur?
Parce que toute création, tout travail produit de la valeur et il s'agit de réintroduire de l'équilibre, de la juste répartition de cette valeur produite, de cette richesse produite entre les créateurs, les artistes, tout le monde de la culture, de la création, parce qu'il n'y a pas que les artistes, mais il y a également toute une sphère économique, des dizaines de milliers d'emplois qui peuvent accompagner le travail d'un orchestre ou d'un artiste, et puis ces intermédiaires qui sont en grande partie effectivement des plateformes numériques d'origine étrangère ou pas, enfin d'origine étrangère à l'Europe ou pas, mais qui fonctionnent sur un principe de non-responsabilité. Voilà. Donc voilà, introduire de la responsabilité et de l'équilibre et du partage. On parle beaucoup de l'économie du partage, mais là, nous, tout ce que nous demandons, c'est le partage de la valeur créée.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union au Parlement européen de Strasbourg il y a quelques semaines, disait, ça va vous réjouir Nicolas Galibert, la création de contenu ne doit pas être considérée comme un loisir, mais comme un travail. Vous n'apprenez pas grand-chose là quand même.
Non, mais c'est assez réjouissant d'entendre dans vos émissions
de l'Inter.
C'est assez important parce que nous, ça nous réconforte. Mais de toute façon, d'une façon générale, depuis toutes ces années, quand on voit tout le package, il y a une dizaine de directives qui concernent à peu près notre secteur. Moi, je m'exprime en tant qu'éditeur au nom de l'ICMP, Confédération des éditeurs internationales. Il y a tout un dispositif qui a été développé sur les œuvres orphelines, sur la durée de protection, etc. Donc on a bon espoir que cette directive va répondre à ce problème pour que les gens comprennent bien l'équation qui est toute simple. C'est que partage de la valeur, pourquoi est-ce qu'il y a un partage déséquilibré? Parce que, comme madame vient de le dire, on n'est pas armé pour négocier. pour négocier, il faut que les gens soient responsables d'un côté et de l'autre. Il faut qu'il y ait des charges et des obligations. Mmh. Le problème, c'est qu'en face, en particulier YouTube, ne se sent pas contraint de négocier. Alors, ils négocient pour être un petit peu dans les clous en termes de communication, mais ils ne sont pas contraints de le faire. Alors que là, dans les textes qui arrivent là, sur la directive, il y a une contrainte de négocier, de trouver des accords. Et donc avec un rééquilibrage, donc qui nous permet, c'est pas exactement la responsabilisation des intermédiaires, mais ça y ressemble. Donc c'est voilà, c'est un.
Jean-Sébastien Lefebvre. Sur la question de la responsabilisation, ce qu'il faut, l'équilibre qu'essaie de trouver la Commission et maintenant la discussion avec le Parlement et les États membres, c'est de dire comment on peut un peu forcer à la rémunération avec le droit d'auteur, sans pour autant dire et remettre en cause le principe que la plateforme n'a pas à modérer l'ensemble de son contenu a priori tout de suite immédiatement et qu'elle est responsable si je sais pas une vidéo de Daesh finit sur YouTube, on peut pas traîner YouTube en justice. C'est un vieux principe qui date de la fin des années 90. Donc c'est assez compliqué de pas on va dire faire sauter la maison en essayant juste de
un exemple concret. Il faudrait quoi que par exemple toutes les plateformes se dotent d'un logiciel de reconnaissance des contenus.
Oui, un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement des logiciels qui existent. L'ID Content, c'est que le problème, c'est que dès qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui n'ont pas été licitées, qui ne doivent pas être rendues accessibles, une fois que le retrait, le takedown a été demandé, quelques minutes après, ça revient. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des outils techniques. Alors là, c'est là où j'ai mes limites, mais il faut qu'il y ait des outils techniques qui permettent que cette takedown soit définitive et qu'il y ait une pérennité dans l'action et dans la protection des œuvres qui ne devraient pas y être.
Jean Quatremer.
Mais alors, tout ça concerne, on parle beaucoup donc, de musique, il n'y a pas que la musique, évidemment, derrière ça. Il y a aussi les films, et puis aussi la presse écrite, les romans. Ce que vous dites, par exemple, c'est le nombre de fois où on voit des gens qui prennent une photo d'un article, qui normalement est payant, et ensuite ça circule sur Twitter, ça passe sur Facebook, etc. C'est ma question. Est-ce que ça, c'est dans la réforme ou pas?
Parce
que
là, on a un vrai problème. Il y a l'idée de créer un droit voisin pour les éditeurs de presse, quand même, qui pourraient... répondre à certaines de ses préoccupations, clairement, oui. Mais c'est vrai que c'est un sujet, effectivement, celui-là, de la protection de ce travail-là. Hein. On en revient quand même aux fondamentaux, qui est effectivement d'identifier le travail, la création, la valeur produite, et de la rémunérer en l'identifiant, la protégeant, la défendant et la rémunérer.
David Bowie avait dit, avant de mourir, que de toute façon, gagner de l'argent vendant sa musique, c'était terminé. Il fallait vivre en faisant des concerts, en vendant des produits dérivés soi-même, etc. Lui considérait que de toute façon la gratuité était tellement entrée dans les mœurs qu'on n'arriverait jamais à revenir en arrière. Qu'est-ce que vous en pensez, ça?
Il l'a dit de mémoire il y a une quinzaine d'années, et en même temps, il avait introduit ses copyrights en bourse, vous vous rappelez de ça? Donc il n'en vivait plus, mais en même temps, il avait cette idée géniale d'être le premier, avant Michael Jackson, de mettre ses copyrights en bourse. Qu'est-ce que je pense de ça? Je trouve que ce qui est regrettable, en fait, maintenant, c'est que il y a des acteurs comme l'industrie musicale, enfin regrettable, qui sont contraints d'avoir des contrats à 360 degrés. Parce qu'effectivement, il y a des espaces qui sont plus prospères, comme le spectacle vivant, qui sera jamais piraté, malgré l'holographie qui arrive en ce moment. Mais donc effectivement, tout le monde est obligé d'élargir son périmètre d'action pour rééquilibrer, pour faire vivre ses artistes.
Jean-Sébastien.
Mais après, le côté, les gens sont plus prêts à payer, etc. Moi, je veux dire, ce qu'est en train de faire Spotify et d'autres plateformes est en train de montrer le contraire.
C'est-à-dire exactement.
Que les gens recommencent à payer. Moi, personnellement, j'ai pris un abonnement à Spotify parce que je trouve ça très pratique de pouvoir avoir la musique que je veux. Moi, les nouvelles technologies aident. Après, la question, c'est est-ce que Spotify va pas remplacer Sony un jour? On peut se poser la question, est-ce que c'est pas ce genre d'intermédiaire? Moi, je sais pas comment vous voyez les choses chez Sony, mais
on va y revenir juste après. Pas ça, il y a la presse, on a parlé avec le droit voisin, il y a également la télévision qui est pris en compte dans ce paquet de réformes du droit d'auteur, et d'ailleurs la commission qui compte faciliter la diffusion de programmes en ligne, et dès qu'une chaîne de télévision dispose d'un droit d'exploitation pour un contenu dans le pays où cette chaîne est présente, eh bien elle pourra le rendre accessible sur le net partout ailleurs dans l'Union européenne, en accord toujours avec les ayants droit. Juste après une courte pause, on va se poser cette question. Les plateformes YouTube, alors on a beaucoup parlé de YouTube, mais aussi Dailymotion et Amazon, sont-elles responsables des contenus qu'elles hébergent? On en discute avec Constance Legris, Jean-Sébastien Lefebvre, Jean Quatremer et Nicolas Galibert. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous parlons aujourd'hui de la réforme copyright. C'est la Commission européenne qui a mis...
droit d'auteur.
de la réforme du droit d'auteur. Pardon, excusez-moi, le linguiste de service.
Le linguiste, car derrière la langue, il y a du droit.
D'ailleurs, et derrière la langue, il y a un homme. Et l'homme, c'est Jean Quatremer de Libération, qui est avec nous sur le plateau. Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Constance Legris, eurodéputé, Les Républicains, et Nicolas Galibert, représentant des éditeurs de musique, également président de Sony ATV EMI, qui représente environ 3 millions de titres en langue française pour Jean Quatremer, qui n'écoute que Pierre Perret et le Zizi, et en langue anglaise. Alors, on parle du projet réforme droit d'auteur. Les plateformes comme YouTube sont-elles responsables des contenus qu'elles hébergent? Ça, c'est une question importante. Jean-Sébastien Lefebvre, aujourd'hui, est-ce que ces plateformes sont responsables du contenu qu'elles hébergent? Vous,
non.
Vous avez évoqué cette question tout à l'heure. C'est également une question dans la lutte contre le terrorisme. Quand il y a une vidéo de Daesh, est-ce que YouTube est responsable?
Alors, si c'est Daesh, oui et non, parce qu'il y a des accords pour dire qu'ils doivent les retirer. Il y a eu des discussions avec les services de police, les autorités, les gouvernements. Et c'est pareil pour les cas de pédopornographie, etc.
Et quand c'est Pierre Perret?
Quand c'est Pierre Perret, non. En fait, il n'y a pas de base légale, comme c'était dit tout à l'heure. Ils font des efforts. Parfois, vous voyez qu'une vidéo a été supprimée pour des raisons de droit d'auteur, etc. Donc, il y a des choses, mais aujourd'hui, c'est le principe qui est là depuis 20 ans. Les hébergeurs de contenu, ça soit aussi bien YouTube que les plateformes de blog, que n'importe quoi, ne sont pas responsables pour ce qui est publié par les gens.
Nicolas Galibert, juste avant la pause, nous disait oui, ils font des efforts, mais c'est un peu de la com. En gros, vous voulez que ce soit contraignant. Que ce soit plus des efforts, que ce soit obligatoire.
Hébergeur, pas hébergeur. Moi, je vais revenir à mes vieux fondamentaux de juriste moyen. C'est-à-dire que je vais dire qu'il y a un enrichissement sans cause. Ouais. Il y a quand même des structures qui s'enrichissent considérablement, qui ont des capitalisations boursières qui dépassent maintenant les plus grands pétroliers de la planète. Donc, il y a un enrichissement qui est patent, qui est évident et qui s'est fait sur le feu de la piraterie, quelque part. Donc, c'est quand même moi ça que je vois, c'est que les créateurs ont participé à l'expansion de toutes ces plateformes numériques et génial, super, parce que, bon, en même temps, j'ai des créateurs qui travaillent ensemble d'un bout à l'autre de la planète grâce à Internet. Hein, il y a des échanges artistiques aussi qui se font. Donc, je ne suis pas du tout en train de revenir à un âge de pierre. Mais il y a un enrichissement, donc il va y avoir partage. Ça me paraît, si l'équation est aussi simple que ça.
Pour nous, YouTube, c'est une crique de pirate.
C'est plus qu'une crique. Hein.
C'est une flotte énorme.
Mais est-ce que pour vous, YouTube donc, profite allègrement du piratage?
Alors, il n'y a pas que le piratage, mais en tout cas, les revenus qu'ils en tirent.
Les revenus publicitaires.
Les publicitaires qu'ils retirent de ce trafic, si je puis dire, d'œuvres et de contenus. Il n'y a pas que la musique, on le disait à l'instant, n'est pas rémunérée et ne fait pas l'objet d'une rémunération. Et c'est en plus juste et équitable. Et on parle de contenu. Et en plus, pour moi, c'est la survie même de YouTube à terme, quand même. C'est qu'il y ait des contenus. Nous, notre capacité d'investissement, il y a un moment, elle va être asséchée. Donc, on va peut-être travailler sur du back catalogue, mais à un moment, ça va embêter tout le monde. Donc, il faut renouveler les contenus. C'est l'intérêt des...
C'est quoi du back catalogue?
C'est le fond de catalogue, c'est toutes les œuvres qui sont... Nous, par exemple, on a le catalogue des Beatles, des Rolling Stones, de Leonard Cohen, de Bob Dylan. Donc, le fond de catalogue réémerge grâce à Internet aussi. Hein. C'est pas uniquement les tops des charts.
Oui, je crois qu'il est important de dire que sans droit d'auteur, il ne peut pas y avoir de financement pérenne de la culture, de la création. C'est, encore une fois, la pierre angulaire. C'est le meilleur des systèmes que l'on a trouvé pour financer.
Des artistes,
mais bien sûr, de tout
contenus,
un système, les industries créatives et culturelles en Europe, c'est 7 millions de personnes, c'est un énorme chiffre d'affaires, des emplois non délocalisables, des emplois qui attirent notamment énormément la jeune génération et des emplois qui vont pouvoir de plus en plus accueillir nos jeunes.
On revient sur Jean-Sébastien Lefebvre, sur ces plateformes sont-elles responsables des contenus qu'elles hébergent?
J'ai déjà répondu.
Vous avez déjà répondu, mais l'industrie numérique dit, elle, non, on ne peut pas être responsable, sinon on se dirige vers une censure, on va se retrouver avec un Internet aseptisé.
Si on est responsable et que du coup on risque de finir devant un juge, si des choses...
Nicolas Galibert disait d'ancien juriste moyen, il a rajouté le moyen. Mais en gros, est-ce que demain, ce seront les juristes finalement, qui décideront de ce qu'on peut avoir sur Internet?
Non, à la Commission, ils le savent. Ce qui est proposé, ça ne va pas amener à ça. Et après, quand on voit aussi les discussions qui sont en cours au Conseil et au Parlement, il y a le camp de Mme Legris qui représente aussi une partie du Parlement et les États type la France, l'Allemagne, etc., qui disent oui, il faut protéger nos créateurs. Mais vous discutez avec les Suédois, les Finlandais, les Danois ou autres qui... Alors certains diront ils ont moins de créateurs, donc c'est moins le problème pour eux, puis au contraire ça ouvre beaucoup plus vers l'étranger. Mais eux qui vont dire non, il faut pas toucher au statut des plateformes, YouTube c'est très bien comme c'est, et arrêter de nous embêter avec ça. Donc il y a en France on a une sorte de d'unanimité quasi de la classe politique, à part peut-être les Verts et encore, qui dit faut protéger, mais reste en Europe. Bah, il y en a certains qui disent non, allez, ouvrons les vannes.
Ce qui est intéressant, c'est le débat qui vient d'émerger aux États-Unis à propos de la responsabilité des plateformes, justement, dans l'élection de Donald Trump. Puisque les plateformes ont servi à véhiculer des mensonges tout au long de la campagne. Et la question, c'est de savoir, c'est effectivement, est-ce que les plateformes, donc Facebook, Facebook, Twitter, etc., ont-ils ou pas une responsabilité dans la diffusion de contenus mensongers? Par exemple, aujourd'hui encore, vous avez toute une série de sites d'extrême droite ou de sites suprémacistes qui explique que Donald Trump a obtenu plus de voix que Hillary Clinton. Or, en l'occurrence, c'est faux. Elle a obtenu plus de voix, Hillary Clinton, que Donald Trump. Et ça pose tout un problème, parce que, effectivement, est-ce que les éditeurs, enfin, est-ce que Facebook, par exemple, doit censurer, a priori, un certain nombre de contenus? Alors, aux États-Unis, mais donc c'est intéressant que ce débat émerge aux États-Unis. Et alors, la réponse, c'est non, dans ce cas-là, il faut permettre à l'internaute d'avoir accès à plus de sources d'informations, plus d'acteurs d'informations, et non pas uniquement les informations qu'il choisit.
Qui, votre réponse ou...
Non, qui émerge actuellement aux États-Unis. D'accord. C'est un débat qui est extrêmement violent parce que, de fait, une partie de la campagne...
On l'a vu, vous en pensez quoi? Est-ce que Facebook doit censurer?
Moi, je considère que Facebook ou Twitter doivent censurer. Oui, dès qu'il y a menace de mort, moi, je suis victime régulièrement de menaces de mort, que ça soit de la part de gens d'extrême droite.
Oui, mais j'utilise un pseudo à chaque fois.
Bien sûr qu'il faut censurer.
Évidemment qu'il faut censurer les discours de haine, etc. Et c'est vrai que, alors, la question de la véracité des contenus, ça pose un problème qui est beaucoup plus délicat parce qu'on peut considérer, c'est quasiment philosophique.
Oui, la vérité.
Mais en tous les cas, que le diffuseur engage sa responsabilité. En France, un journal publie une tribune haineuse. Le journal est co-responsable de l'auteur de la tribune haineuse. Et là, de façon extraordinaire, sur le numérique, on ne le fait pas. Mais je crois que le problème fondamental qu'on a, c'est qu'au point de départ, dans les années 90, quand le numérique a commencé à émerger, il y a eu une sous-estimation de la révolution industrielle qui est arrivée.
On ne savait pas ce que c'était.
De la part des éditeurs, moi je me rappelle encore qu'à la fin des années 90, j'ai eu un déjeuner ici avec une série d'éditeurs qui expliquaient à quel point le CD serait pérenne, le CD. Je me disais, attendez, là, vous êtes en train de louper quelque chose. Il y a un truc qui arrive, là, au bout, là, ça s'appelle un tsunami. Et les types étaient assis. Moi, je me rappelle encore des discussions, mais surréalistes. Les éditeurs de journaux, c'est exactement la même chose. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui au bord de la ruine? C'est parce que pendant tout un temps, on s'est dit, bon, on va mettre ça gratuitement. De toute façon, le numérique, ça va concerner que quelques geeks qui vont plus ou moins retirer dans une montagne, qui vont s'amuser avec ça. Et tout le monde, si à l'époque, on avait posé le cadre légal, la commission ne voulait même pas entendre parler de réglementation d'Internet. Ils expliquaient liberté. Liberté totale, le marché
est autorégulé. En 2016, ça paraît un peu tard, mais ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années qu'on discute de tout ça.
Mais c'est trop tard, il fallait les prendre au début, quand ils étaient bébés. C'est au début qu'on réglemente un secteur. Maintenant, on a affaire, comme vous le dites très justement, à des géants qui ont plus de pouvoir que les industries
pétrolières. On a sous-estimé la révolution numérique. C'est une question un peu bateau, mais Nicolas Galibert.
Bien sûr, ouais. Non, mais ça, il faut battre sa propre coulpe. Il faut reconnaître qu'on n'a pas du tout vu venir les choses. Mais, alors moi, je suis éditeur de musique.
Y compris votre industrie?
Alors moi, mon industrie, dans l'industrie, c'est une filière, comme vous savez, il y a des spectacles vivants, il y a la production phonographique, et nous, qui travaillons en B2B, hein, derrière ces gens-là, en tant qu'éditeurs de musique, on est en B2B, c'est-à-dire qu'on travaille avec des auteurs-compositeurs, on les accompagne, et heureusement, on a une gestion de droit qui fait qu'on s'en sort grâce aux spectacles vivants, grâce aux médias traditionnels, donc on a une gestion plus capillaire, si je puis dire, des droits, qui font qu'on s'en sort un petit peu mieux, mais pour revenir juste sur un mot censure, je trouve que c'est exagéré, parce que je veux pas donner l'impression que les musicale qui a 200 années d'existence et complètement réactionnaire. C'est réjouissant pour nous, Internet. Encore une fois, c'est un outil de création, c'est un outil de diffusion des œuvres et de gestion. On peut mieux rétribuer.
Vous y voyez une opportunité.
Évidemment.
Dans Internet.
Mais c'est une opportunité extraordinaire.
Parce que là, tout à l'heure, vous avez commencé l'émission sur un numéro de Calimero avec l'industrie est sinistrée, etc. Donc finalement, maintenant, vous y voyez une opportunité quand même.
Bien entendu.
Maintenant, on peut se parler, ça fait 20 minutes qu'on est...
Non. Bien entendu, c'est pour ça qu'on ne parle pas de censure, parce que la censure, ça a une notion morale, voire politique, qui est extrêmement lourde. Ouais, nous, ce qu'on demande simplement, c'est que c'est dans cet espace de prospérité, pardon, qui est l'Internet, que juste que tout le monde en vive correctement, et que les créateurs aient envie de créer, et qu'on renouvelle les contenus, et qu'il y ait une économie d'investissement, revenu investissement, qui soit un cercle
vertueux. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait?
Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création. Et si en Europe, il n'y a plus de diversité culturelle, parce que vous parlez du Danemark ou de petits pays, entre guillemets, etc. Mais ces pays-là, s'ils veulent continuer à avoir de la musique, s'ils veulent continuer à avoir des films, s'ils veulent continuer à avoir de la vidéo, dans leur propre langue, nous sommes très attachés à la diversité linguistique européenne, ont besoin des droits d'auteur. Sans droits d'auteur, sans rémunération de la création, du talent, du travail, fait dans toute cette diversité linguistique et culturelle européenne, il n'y aura plus rien. L'assèchement, l'appauvrissement.
Pour quoi, concrètement? Donc ce texte a été mis sur la table par la Commission européenne.
Maintenant, il va passer par le Parlement européen, le Conseil des ministres européen.
Et vous allez faire quoi? C'est quoi?
Mais je vais, à partir d'un constat qui est que la proposition de révision de la directive que nous propose la Commission européenne est un texte assez pertinent et assez intéressant, beaucoup moins critiquable et dommageable que ce à quoi
donc
on avait pu s'attendre.
Il est ambitieux.
Il est assez pragmatique et fait de bons constats. Il n'est peut-être pas effectivement assez ambitieux et il a besoin, manifestement, les parlementaires ont toujours envie de faire cela, d'être amendé, d'être complété, d'être amélioré, et on a besoin de clarifier un certain nombre de choses. De clarifier le partage, le transfert de la valeur, de clarifier le statut des intermédiaires. Il y a un certain nombre de zones qui sont encore un tout petit peu floues où on a besoin de clarifier, de préciser, d'améliorer. Mais on part quand même sur une base de départ qui est pertinente. Et encore une fois, je crois qu'il est important, et ça la Commission européenne l'a compris, c'est que le droit d'auteur, c'est pas quelque chose de vieux, de poussiéreux, de réac, de pas moderne, qui appartiendrait à un autre âge et qui serait pré-révolution industrielle numérique. C'est moderne.
Dans les discussions qu'il va avoir, il y a aussi par exemple la question des exceptions au droit d'auteur. Ça va être un des gros problèmes. C'est quand est-ce qu'il n'y a pas le droit d'auteur qui s'applique, etc. On prend l'exemple assez répandu du data mining, c'est-à-dire en gros utiliser les données pour les traiter et en faire quelque chose. On veut faire une exception là-dessus, c'est-à-dire une université pourrait utiliser une grosse quantité de données qui sont normalement soumises au droit d'auteur, mais comme c'est normalement un but de recherche, elle pourrait le faire gratuitement. Est-ce qu'on l'autorise? Mais est-ce qu'après l'université pourrait revendre le résultat de sa recherche sans payer du droit d'auteur? C'est des débats assez techniques, mais c'est vraiment préciser. La question de répartition d'un gros gâteau. Ça représente des milliards et des milliards. Et qui a droit à quoi? C'est ça, en gros, la réforme du droit d'auteur.
Bon, Nicolas Galibert, vous nous rassurez, dans les années à venir, on pourra continuer à écouter Pierre Perret.
Entre autres.
Le zizi.
Entre autres, oui, non, mais c'est patrimonial, hein, tout ça, hein, quand même. Non, mais bien sûr, mais je pense que aujourd'hui, je suis un peu plus optimiste par rapport à la relation qu'on a établie, justement, avec les politiques et avec nos représentants. Et là, on est assez satisfait, mais l'histoire n'est pas terminée parce qu'il faut, voilà. Il y a certains ajustements entre l'article 13, le considérant 38, etc. Mais je pense qu'il y a un horizon qui se dessine.
Nicolas Galibert, président des éditions Sony ATV IMI, représentant sur ce plateau des éditeurs de musique internationaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Constance Legris, vous restez avec nous. Jean-Sébastien Lefebvre également. La revue de presse européenne, juste après une courte pause avec notre ami Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International. À tout de suite.
Matin.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Noguès.
Voilà, merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Dans la première demi-heure, nous avons parlé de la réforme du paquet droit d'auteur, pour la moderniser un petit peu, parce que oui, maintenant on a Internet. D'ailleurs, je tiens à faire une précision, j'ai vérifié pendant la pause, j'avais commis une erreur tout à l'heure, en parlant de Spotify, j'avais dit que c'était danois. Non, effectivement, c'est un service suédois de streaming musical. Mais sachant que les patrons s'étaient rendus à New York pour développer leur business parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas le cadre suffisant en Europe, notamment avec les frontières et les questions de droits d'auteur, de brevets, etc. À présent, la revue de presse européenne. Nous sommes toujours en compagnie de Constance Legris, eurodéputée Les Républicains, de Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte et de Jean Quatremer de Libération et du blog Coulisses de Bruxelles. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann-Anthony.
Le grand Manitou de Courrier International. Vous allez nous faire voyager aujourd'hui. Dans quel pays allez-vous nous emmener?
On part d'abord en Italie et puis ensuite cap à l'Est. Alors l'Allemagne, la Moldavie et l'Autriche.
Oh là là, l'Italie, l'Allemagne, la Moldavie. Tiens, pourquoi la Moldavie, vous allez nous dire ça? Et l'Autriche, sans transition, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Alors, on commence par l'Italie. Agriculture, par la magie d'une étiquette, la mozzarella redevient italienne.
Eh oui, Yann Anthony, je savais qu'il y avait beaucoup de sujets géopolitiques, mais ça s'en est un. Et puis surtout, c'est un sujet très européen, puisque les Italiens, les éleveurs italiens sont ravis d'un décret pris récemment par la Commission européenne et qui va permettre effectivement peut-être de rendre à nouveau la mozzarella complètement italienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que grâce à ce décret qui va permettre de mentionner l'origine, la matière première des produits laitiers, eh bien l'Italie, on va retrouver des étiquettes dans les magasins en Italie qui préciseront d'où viennent réellement les matières premières qui servent à faire les fromages. Et vous savez, on parle beaucoup des fromages français, mais il y a quand même 487 variétés de fromages en Italie, nous explique Il Fatto Quotidiano. 487 donc variétés de fromages, dont évidemment la mozzarella, et tous ces fromages jusque-là, eh bien, utilisaient beaucoup de lait importé sous toute forme, du lait concentré, caillé, semi-transformé en poudre. Eh bien, grâce à ce décret, en tout cas c'est ce qu'espèrent les éleveurs, qui ont fait pression auprès de leur ministre d'Agriculture, qui lui-même a fait pression auprès de Bruxelles, eh bien, ils espèrent pouvoir retrouver que tous ces laits, on va pouvoir retrouver le véritable « made in Italy » dans la mozzarella notamment.
Voilà, le Made in Italy, le pays aux 487 fromages. En France, c'est combien ? C'est le pays aux 1000 fromages, non ?
Beaucoup.
Oui, au moins. Jean-Sébastien Lefebvre.
Moi, j'aime bien cette premier article de revue de presse parce que on est toujours en train de dire « Ouh, la Commission européenne, elle régule n'importe quoi, elle fait des règles, etc. » Sauf que, voilà, encore une fois, ça démontre que pourquoi il y a des règles, c'est parce qu'on gère un marché unique. Et que, oui, il faut dire c'est quoi, plus ou moins, une mozzarella, c'est quoi, plus ou moins, je sais pas, du saumur champigny français, etc. Et donc, quand on a cette hystérie autour des normes européennes sur les bouilloires ou les chasses d'eau, c'est souvent parce qu'il y a une raison derrière. Moi, en France, dans les différentes campagnes politiques qu'on voit aujourd'hui, il y a ce côté Europe bashing, la taille du concombre, etc. Mais je veux dire, la Commission européenne ne fait pas ça pour le plaisir. Alors, parfois, il y a des excès, ça arrive. Mais là, on voit clairement qu'il y a une demande des producteurs italiens, des professionnels, de dire, voilà, moi, je veux pouvoir vendre ma mozzarella, qui s'appelle mozzarella, il y a des raisons. Et on y va. Et en France, c'est la même chose. Si on enlevait toutes ces réglementations qu'on nous dit superflues, et c'est des eurocrates coupés hors sol qui les font.
L'acquis communautaire représenterait, donc l'ensemble de la législation européenne représenterait 100 000 pages.
Mais là, c'est.
Que Jean Quatremer a tout lu.
Absolument. Mais surtout, là, on ne comprend pas très bien dans cet article de quoi il s'agit. Est-ce que c'est simplement l'origine des produits, ou alors est-ce que c'est une appellation d'origine géographique ? Parce que normalement, vous savez, les appellations d'origine géographique, donc il faut, par exemple, le Roquefort, on a une. Donc, c'est un produit qui vient d'un endroit donné, qui est fabriqué selon tel process ancien, etc., etc., avec telle matière première, et ainsi de suite. Or là, j'ai l'impression que la mozzarella...
C'est pas de l'IGP, c'est autre chose.
Voilà, là, c'est plutôt l'origine du lait, simplement.
Qui entre dans la composition.
Enfin, la mozzarella italienne avec du lait
espagnol. Il y aura même trois indications. Il s'agit donc de l'étiquetage obligatoire de l'indication d'origine géographique pour le lait. Pour le lait, notamment UHT. Hein. Et il y aura plusieurs choses qui seront prises en compte. Le pays de production, le pays de conditionnement et le pays de transformation. D'accord. Alors, si tout ça s'est fait en Italie, ben, ça sera écrit juste « Made in Italy ». Si c'est fait ailleurs qu'en Italie, mais en Union européenne, ça sera indiqué. De la même façon, ça sera indiqué si c'est fait hors de l'Union européenne.
Jean Quatremer, une autre question ?
Non, c'est parfait. Voilà, on a eu la réponse.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Finalement,
c'est aussi ce qui était le nœud du problème pour les accords internationaux, TTIP, CETA, les appellations d'origine contrôlées.
Oui, et les IGP. Alors, je ne sais pas si la mozzarella était vraiment le nœud du problème pour les projets ex-futurs, projets d'accords commerciaux transatlantiques. Mais je crois qu'effectivement, il est très important de définir dans les négociations commerciales, comme de manière générale dans la vie, quelles sont nos priorités. Et la défense de nos indications géographiques protégées, nos fameuses IGP, c'est quelque chose qui doit être au cœur de notre mobilisation ici au Parlement européen, dans toute une série, encore une fois, de futurs ex, peut-être un jour probable, éventuel, on ne sait pas, accords commerciaux avec les États-Unis ou d'autres parties du monde. Ça fait partie effectivement des lignes rouges que je crois au sein du Parlement européen, plusieurs familles politiques ont identifiées.
Direction l'Allemagne à présent avec vous, Eric, avec Steinmeier, un Allemand d'origine contrôlée, un anti-Trump pressenti pour devenir président.
Oui, l'anti-Trump, c'est ce que nous dit la Süddeutsche Zeitung. Alors, vous savez, il y a eu non pas l'élection présidentielle, celle va bientôt venir, ça sera le 12 février prochain en Allemagne, mais en tout cas, il y a eu déjà un choix qui a été assez long à se faire. Il a fallu plusieurs mois, mais finalement, tout récemment, la CDU, la CSU se sont mis d'accord sur un candidat, et ce candidat, donc, c'est effectivement le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier, qui réunit, selon la Süddeutsche Zeitung, eh bien, en fait, tous les démocrates contre le populisme agressif. C'est pour ça qu'il le qualifie d'une sorte d'anti-Trump, nous dit l'éditorialiste. C'est lui, a priori, donc, qui devrait succéder à l'actuel président, Go, qui voulait pas refaire un nouveau mandat parce qu'il est âgé de 76 ans. On sait, le président en Allemagne, c'est surtout une fonction honorifique, mais qui a quand même dans ce pays une très forte valeur morale, et c'est pour ça que ce choix retenu par Angela Merkel, qui n'était pas tout à fait favorable au départ, mais finalement, le choix de Steinmeier, eh bien, c'est un choix par raison, mais qui fera l'unanimité, c'est un choix consensuel.
Un choix consensuel, tiens, pour parler de consensus, Jean Quatremer.
Non, le fait qu'elle soit finalement ralliée à la candidature de Steinmeier, ça indique ce qui va se passer l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on repart vers une nouvelle grande coalition entre la CDU, la CSU et le SPD. Au départ, son candidat
favori...
Sachant
qu'on rappelle que le président... Il inaugure un petit peu les chrysanthèmes. Le patron, c'est le chancelier. Hein, le président. Voilà.
C'est pas du tout comme en France. D'ailleurs, ce serait mieux que ça soit que nous prenions modèle sur l'Allemagne, qui est une vraie démocratie parlementaire et non pas un régime dictatorial pour 5 ans en France à durée déterminée.
La liberté de la presse est pleinement respectée en France. Vous en êtes l'illustration vivante.
Sauf que le président ne rend pas de compte pendant 5 ans, ce qui n'est pas le cas de la chancelière Angela Merkel.
Il y a des élections intermédiaires.
Oui, il faut être sérieux quand même. C'est sur l'Europe notamment. La chancelière passe son temps à s'expliquer devant le Bundestag. Oui. Ce que fait jamais le président.
Au sens
Legris,
qui n'est pas la liberté des réformes de la presse est totalement respectée en France.
Et on est rassuré.
Legris s'est retrouvé dans l'œil du cyclone pour le secret des affaires, notamment, et toutes ces questions.
Et donc, elle écarte aussi ainsi le spectre éventuellement d'une coalition rouge-verte qui était quand même aussi une possibilité. C'est-à-dire, on aurait vu le SPD, Die Linke et les Verts gouverner ensemble et mettre en minorité la CDU. C'était une possibilité à laquelle moi je ne croyais pas beaucoup, surtout vu la montée en puissance des populistes de l'AFD, donc qui sont les anti-euros et anti-européens.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Je pense que Jean Quatremer va un peu vite en besogne sur future coalition. Parce que l'idée en Allemagne qui circule en France...
Je n'ai pas dit que ça va se faire, j'ai dit que c'était le projet.
C'est plutôt une coalition de CDU, donc droite, avec les Verts. C'est ça, parce qu'il y a une bonne partie du SPD qui ne veut pas retourner en coalition avec le Merkel en disant si on y va pour une troisième fois consécutive... On devient une annexe des conservateurs et en plus c'est toujours le petit partenaire, c'est pas eux qui gagnent les élections, et donc du coup certains disent on va laisser les Verts y aller s'ils font assez pour donner une majorité à Merkel qu'ils y aillent. Il y a des discussions en ce moment entre les Verts et la
les Verts allemands, ils s'entendent entre eux.
Ils se parlent entre eux, les
Verts allemands.
C'est pas les Verts français.
Oui. Non, et surtout, il y a déjà des alliances au niveau des Länder entre la CDU et les Verts.
Sachant que les Verts en Allemagne, ils ont eu des portefeuilles régaliens, ils ont eu...
Ils ont eu Joschka Fischer qui était ministre des Affaires étrangères.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ouvre peut-être la voie à une candidature de Martin Schulz.
Le président du Parlement.
Ministre des Affaires étrangères.
Et pas seulement, il va diriger la campagne sans doute du SPD pour les élections législatives de septembre prochain. Il est clair qu'il est en train de se préparer à cela parce qu'il ne sera sans doute pas reconduit dans son poste de président du Parlement européen comme il l'espérait à cause de l'accord qui a été passé avec les conservateurs du PPE. Et donc, il ne se voit pas terminer sa vie en écrire ses mémoires sur un comme backbencher, député de base, comme les anciens présidents.
Il a été libraire, c'est un auteur.
Oui, il aurait pu. Mais donc, et là, il semblerait qu'il se prépare à rentrer en Allemagne. Et donc, il ne gagnera pas, mais comme le dit Constance Legris, et il va se retrouver ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier.
Oui, ça ouvre
à terme.
Des perspectives.
Pas en Moldavie, visiblement, parce que Eric Scholl ignore Dodon, le président qui tournera le dos à l'Europe. On a un nouveau président en Moldavie.
Oui, tout nouveau, là, qui vient d'être élu. C'était d'ailleurs la première fois qu'il y avait une élection suprajuversale du président. Et donc, c'est Igor Dodon qui est ce nouveau président. Et c'est ça qui est intéressant. Dans ce pays, ce tout petit pays à côté de la Roumanie qui frappe à la porte de l'Union européenne, eh bien, ce nouveau président, lui, regarde du côté de Moscou. C'est en tout cas ce que raconte l'hebdomadaire national, un Ziaroul national, qui nous fait un petit portrait de ce président, un candidat donc du Parti Socialiste, ancien communiste, qui a été plusieurs fois ministre, qui a même été vice-premier ministre. Il est polyglotte, ancien économiste, perçu plutôt comme un homme qui sait soigner son image. Mais alors, il la soigne notamment à grands coups de renfort d'image avec Vladimir Poutine et puis avec le patriarche de l'église orthodoxe russe. Son succès, raconte le journal, s'explique par la perte de confiance grandissante dans l'option européenne. En effet, la population s'est appauvrie sous les gouvernements pro-européens et la disparition notamment d'un milliard d'euros des trois principales banques du pays n'a toujours pas été digérée. C'est ce que nous raconte cet hebdomadaire moldave.
Voilà.
Donc c'est pour ça qu'il veut faire ami-ami avec Moscou.
La Moldavie qui n'est pas membre de l'Union européenne, en revanche il y a d'autres pays... On se rend compte qu'ils vont former peut-être tous un groupe de pays qui tournent le dos à l'Europe. Maintenant, il y a la Bulgarie qui a également un nouveau patron qui est plutôt tourné vers l'Est.
Président, il n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un Premier ministre en Bulgarie. Attention, c'est pas encore
Constance
fait.
Constance Legris.
Non, effectivement, je voulais, il y a la Moldavie, mais j'ai suivi d'un peu plus près parce qu'elle est actuellement membre de l'Union européenne. La Bulgarie, ce qui s'est passé en Bulgarie, où effectivement là aussi c'est un président pro-russe, décrit comme tel, qui a été élu un peu à la surprise générale, mais on est dans des périodes de surprise électorale en ce moment. Et effectivement, ça nous amène quand même à devoir considérer qu'il y a une zone d'influence russe qui est en train de s'étendre et qu'il ne nous faut pas... peut-être être naïf. Encore une fois, il y a clairement des visées politiques. En tout cas, peut-être même ici au sein du Parlement européen, entend-on, voit-on régulièrement certains de mes collègues tendre une oreille et peut-être pas que l'oreille complaisante à ce que peut dire
le président.
Ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est vous qui le dites. Et donc tout cela doit nous amener quand même à nous assumer.
Voilà. Ben oui, c'est vous qui le dites.
Mais voilà. On remplit les trous, nous.
Donc ça doit nous amener à être plus unis, je pense, en tant qu'Européens, à prendre conscience du fait que voilà, c'est le moment ou jamais d'être unis, d'être concentrés sur nos forces, nos atouts, de nous assumer comme puissance avec tout ce que cela implique, notamment face à la Russie, pas que, mais notamment.
Est-ce que c'est moins bien de se faire financer par les Russes que par la Libye? C'est une question.
Non. Je ne me sens pas concerné.
Sur la Bulgarie, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le résultat de l'élection s'inscrit dans une alternance politique. C'est-à-dire que depuis 10 ans, c'est la droite qui est au pouvoir en Bulgarie, avec Boyko Borisov, qui est du GERB, donc du PPE. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Et là, logiquement, au bout de 10 ans, bah, il a pris une veste, hein, comme on dit. Et donc, du coup, c'est le Parti Socialiste qui a gagné l'élection présidentielle, où effectivement, il y a moins de pouvoir que le Premier ministre. Et le Parti Socialiste est effectivement traditionnellement plus pro-russe que la droite bulgare, qui est plutôt pro-américaine. Donc,
Le Parti Socialiste, c'est la continuation du Parti Communiste.
Oui, exactement.
Le nettoyage,
bien sûr.
En Bulgarie.
Mais on retrouve aussi des. Moi, Boyko Borisov est l'ancien garde du corps du dernier dictateur bulgare.
Et ça, c'est dingue. Ancien garde du corps.
Voilà, il a été entraîneur de l'équipe de karaté aussi, je crois.
Vous savez, quand j'avais interviewé à l'époque, quand il était maire de Sofia, il avait toujours son revolver avec lui, parce qu'il y a des règlements de compte en Bulgarie. C'est un Far West, hein. C'est le Far West, la Bulgarie. Et quand il fait une interview, il pose sur la table son Colt 45.
Je ne sais pas s'il le fait au Conseil européen, c'est pas mal.
Il faut le laisser au vestiaire.
Pour Jean Quatremer, les pays de l'Est, c'est le Far West.
Sans transition.
Bah, au contraire, justement. Eric Scholl, qui manie avec talent l'art de la transition, nous parle maintenant d'Autriche, diplomatie, Donald Trump, soulagement pour l'Europe de l'Est.
Oui, alors vous allez voir, c'est effectivement exactement ce que vient de dire, notamment Constance Legris. Cette élection de Donald Trump, c'est un soulagement pour tous ces pays. Alors notamment, Viktor Orban rira bien qui rira le dernier. Orban est le seul chef du gouvernement européen à avoir soutenu ouvertement la candidature de Donald Trump, écrit Die Presse, et qui explique que Trump ne l'oubliera certainement pas. Il est probable qu'il apprécie la clôture érigée à la frontière de la Hongrie. Et il n'y a pas que la Hongrie. Hein, à l'avenir, tous les pays du groupe de Visegrad sont moins exposés à la pression des États-Unis, explique le journal. Une pression qui s'expliquait par l'attitude de la politique américaine vis-à-vis de Moscou. Alors attention, le journal prévient quand même, il y a quand même danger. Si Trump se détourne de l'OTAN, s'il laisse une plus grande marge de manœuvre à la Russie pour exercer son influence sur l'ancien bloc de l'Est, les États baltes risquent de se retrouver en très mauvaise posture. Et le journal prévoit lui aussi, voit le danger de la mise en place d'une sphère d'influence russe en Europe. Vous voyez, c'est ça la transition.
Voilà, toujours la sphère d'influence russe en Europe, Constance Legris. On est pile dans ce que vous disiez.
ça fait partie des choses que l'on voit effectivement progressivement se dessiner. Ça peut à la fois être inquiétant, mais également très stimulant. On est un peu en face de nos responsabilités maintenant. Le Brexit, dont on n'a pas vu venir l'ampleur, ni compris tout ce que cela devait nous amener à conduire comme changement. Maintenant, l'élection de Trump et puis d'autres élections, d'autres bouleversements et encore une fois la puissance russe qui se déploie, y compris sur les théâtres d'opérations militaires en Moyen et Proche-Orient. Je crois que l'Europe est maintenant clairement obligée de considérer qu'elle doit prendre en main son destin plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant, faire face à ses responsabilités, souder, voilà, trouver ses priorités, se défendre, se protéger, s'affirmer comme puissance. Pour ça, il faut avoir confiance en soi.
Constance Legris, qui a confiance en elle et qui nous donne un petit coup de vieux. Nous, on n'arrête pas de parler du Brexit. Constance Legris, elle parle du Brexit.
Oh, pardon.
Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Constance Legris, eurodéputée des Républicains. Merci Jean Quatremer de Liberation. Et merci à Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. Merci beaucoup à Alexandre Rougier et Florence Fécamp qui nous ont aidés à préparer cette émission. La semaine prochaine, après Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie la semaine dernière, la semaine prochaine, nos invités, deux invités spéciaux, Pascal Lamy et Oliver Stone, le réalisateur qui va nous donner son avis sur l'Europe d'aujourd'hui. On connaît son avis sur les États-Unis d'hier et d'aujourd'hui. On est curieux de connaître son avis sur l'Europe d'aujourd'hui. Voilà, bonne fin de week-end à tous. On se retrouve samedi prochain et dimanche prochain, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. À bientôt.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.